14 février 1990, alors qu'elle filait dans l'espace depuis 14 ans en direction des planètes lointaines, la sonde Voyager 1 s'est soudain retournée. Elle était à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Et ce jour-là, à 5h48 du matin, heure de Paris, la sonde a pris une photo. Quelques jours plus tard, lorsque l'astronome Carl Sagan se pencha sur le cliché, il y distingua un petit point bleu et son cœur se mit à battre la chamade. Pourquoi ? Eh bien parce que ce point bleu était reconnaissable. C'était le bleu de l'eau, le bleu de l'eau liquide. C'était le bleu caractéristique d'une planète recouverte d'un océan, éclairée par une étoile comme le Soleil. L'insignifiant petit point bleu photographié par Voyager 1 était la Terre. C'était notre monde, le seul monde connu dans l'univers à posséder un océan d'eau liquide à sa surface. Alors pour nos ancêtres, l'océan a longtemps été une source de mythes et d'histoires aussi belles que terribles parfois. Mais nous savons aujourd'hui qu'il contient aussi des trésors plus précieux aux yeux des scientifiques que les coffres remplis d'or de navires perdus. L'océan regorge de réponses aux questions les plus fondamentales qui soient, sur la vie, sur la Terre, sur l'histoire de notre monde, sur notre histoire. Alors pour nous aider à trouver ces réponses et surtout à les comprendre, voire même comprendre les questions, et aussi, il faut bien l'admettre, pour avoir l'impression d'être encore un peu en vacances en ce week-end de rentrée, je vous propose de partir explorer les mystères de l'océan en compagnie de mes trois invités que voici.
Donc moi je suis Eric Carsenti, merci de m'avoir invité pour cette émission. Donc je suis biologiste, j'ai travaillé pendant des années sur des questions fondamentales de biologie, essayer de comprendre comment les cellules fonctionnent, comment elles se divisent, comment les formes de la vie se fabriquent. On part d'un spermatozoïde, d'un œuf qui ont des formes particulières, on finit avec une structure extrêmement complexe et capable de penser comme nous. Donc je m'intéressais à toutes ces questions-là. Et puis il y a quelques années maintenant, 2007-2008, j'ai commencé à vouloir faire une expédition pour essayer justement de comprendre un petit peu plus ce qui se passait aux origines de la vie et comment la vie s'était complexifiée dans les océans, évidemment. Et donc on a monté avec un tas de collègues une expédition qui était Tara Océan, qui a eu énormément de succès. Donc on a découvert plein de choses. On va en parler, je pense, aujourd'hui. Et voilà.
Oui, bonjour et merci aussi de m'avoir invité. Je suis ravie. Moi, je suis une biologiste spécialiste des écosystèmes profonds. Je me suis intéressée à l'adaptation au milieu extrême. Et puis, à un moment donné, j'ai été intéressée aussi par savoir comment est-ce que faire advenir les sciences de l'écologie et les sciences de l'environnement au niveau institutionnel pour avoir les moyens de développer des recherches et une compréhension de c'est quoi l'environnement.
Et je rappelle que vous vous appelez Françoise Gaille aussi.
Ah oui, excusez-moi.
Et moi, je suis Charles Berling, je suis acteur, je suis metteur en scène. Je dirige aussi un théâtre qui est la scène nationale Château-Vallon-Liberté à Toulon. Et nous avons créé depuis plusieurs années un temps fort qui s'appelle Passion Bleue, parce que je suis aussi, je fréquente beaucoup la mer depuis toujours, depuis tout petit. Et donc, d'ailleurs, en 2020, Françoise Gaille nous a fait l'honneur de venir discuter, puisqu'on réunit des artistes, des scientifiques, on réunit des pêcheurs, le préfet maritime, des marins de toutes poils, et on pense la mer, on aime la mer, on en parle, et on échange autour de ça. Donc voilà pourquoi je suis là, parce que je suis passionné par la mer, moi aussi, et donc je suis très heureux de pouvoir poser plein de questions.
Eh bien, Charles, Françoise, Eric, vous êtes mes trois premiers invités. Bienvenue à toutes et à tous dans Big Bang, épisode numéro 1, les mystères de l'océan.
France Inter. Big Bang, Christophe Galfard.
Alors j'avais envie de commencer avec vous, Eric et Charles, et de vous mettre tous les deux sur un bateau au milieu de l'océan. Et j'aimerais vous poser cette question. Là, aujourd'hui, vous y êtes, il n'y a rien autour de vous. Eric, que voyez-vous ?
La première chose qu'on voit, c'est l'eau.
Ce qui ne fait... On a pas l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, quand même, à part des vagues.
On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, on voit des vagues, oui, effectivement, ou pas. Ça peut être le calme plat ou les vagues. Moi, j'ai beaucoup navigué tout le temps. Alors, c'est effectivement, il y a ce côté un petit peu zen, un peu, de cette immensité, un peu comme dans le désert, je pense, un peu que j'aime beaucoup en fait sur l'océan. Dans les grandes traversées, c'est super. Et puis évidemment, on voit des choses de temps en temps. Alors on voit des méduses, hein, plein de choses. Et puis surtout, ce qu'on voit en fait, c'est des cétacés la plupart du temps, des dauphins. On en voit beaucoup plus qu'on croit en fait. On en voit très souvent. C'est très agréable, ils viennent jouer devant le bateau, ils sautent, ils vous regardent. Alors c'est assez émouvant parce qu'ils viennent devant l'étrave, puis ils penchent la tête comme ça, et puis vous voyez leur œil, ils vous regardent, vous communiquez avec eux vraiment, c'est super. Et puis aussi des baleines. Moi je me rappelle une fois en Méditerranée, comme ça on était avec la famille, et puis il n'y avait pas de vent du tout, et on avançait en bateau, et tout d'un coup je vois quelque chose de gris dans l'eau devant nous, là, au ras de l'eau. Donc on ralentit, on regarde ce que c'est. C'était une baleine en fait qui dormait.
Donc ça dort déjà les baleines.
Ouais, je pense qu'elle dormait, elle n'a pas bougé. On s'est approché, on a fait le tour. Et puis voilà. Et une autre fois encore, alors là c'était entre le Portugal et les Açores. Pareil, on naviguait, il y avait plus de vent tout d'un coup et la mer était toute calme. Et puis on voit un peu au loin un groupe de choses grises aussi, comme ça, on s'approche. Et là, c'était totalement magique. On est resté pendant une demi-heure à regarder ces rorquals, c'était des rorquals, qui faisaient des câlins, en fait. Ils étaient en train de se toucher, comme ça. Et c'était super zen, il n'y avait pas de bruit. Ils sont restés une demi-heure, comme ça, sans bouger, en faisant des câlins, comme je disais. Et puis, puis tout d'un coup, ils sont partis. Tranquillement, très lentement. C'est très, très... Ouais, c'est super. Ouais, c'est une chose extraordinaire.
L'océan que vous avez traversé tous les trois fait à peu près environ 70% de la surface de notre monde. Mmh. C'est une surface qui est absolument gigantesque. Et les animaux, les cétacés que vous décrivez là à l'instant, ou les méduses, sont des objets dont on a plus ou moins tous entendu parler, qu'on a pu voir à gauche, à droite, et qui vivent dans cet univers qui est finalement relativement inconnu, qui est celui de l'océan. Alors certes, nous connaissons ces animaux-là, mais comment est-ce qu'ils se nourrissent? Comment est-ce qu'ils peuvent exister à l'intérieur de cet univers liquide? Et est-ce qu'ils ne se cacheraient pas à la surface de l'océan des choses invisibles, des choses qui vous ont intéressé dans votre carrière?
Oui, alors évidemment, ce qu'on voit quand on voit principalement ces organismes-là, mais il y a une autre chose qu'on peut voir, en fait, de temps en temps, c'est les manifestations du plancton. Et ça, encore une fois, c'est une expérience en naviguant. C'était une autre fois en ramenant un bateau de Trinidad, vers les Antilles. C'était la nuit, il y avait beaucoup de vent, il y avait l'Alizée, hein, il y avait 30 nœuds. Et puis, donc, il y avait beaucoup de vagues. Et la mer était totalement lumineuse. Et c'était absolument extraordinaire parce qu'on voyait des flashs qui venaient qui collaient au bateau partout. Le bateau était tout illuminé. Et pareil, il y avait des dauphins, on voyait les yeux des dauphins qui étaient entourés d'un cercle lumineux. C'est magique. Et ça, c'est le plancton. Donc le plancton, en fait, si vous voulez, bon, le plancton, c'est des organismes. Il y a plein d'organismes. Hein, ceux qui faisaient de la lumière, là, c'est probablement des protistes, un petit peu, qui ont des photos, choses qui font de la lumière. Mais le plancton est composé, en fait, de virus, de bactéries, de protistes. Alors les protistes, c'est des cellules un peu plus grosses que les bactéries, qui sont l'équivalent des cellules qui nous composent, mais qui ont évolué pour vivre toutes seules dans l'océan. Et puis des micro-organismes, des micro-animaux, des multicellulaires, donc il y a plus de cellules qui sont fabriquées comme nous, mais qui ont des formes très différentes et très variées. Donc c'est tout ça. Donc ça fait un écosystème qui est extrêmement abondant dans l'océan. Il y a des milliards d'organismes comme ça.
Je crois que si on prend en masse la totalité des organismes vivant dans les océans, la masse de ceux qu'on ne voit pas, qui sont trop petits pour être vus à l'œil nu, est d'environ 95%.
Ouais.
L'immense majorité du vivant dans l'océan est invisible à l'œil nu.
Et c'est ces organismes-là qui maintenant, en fait, sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc les dauphins, tous les gros mammifères, en fait, se nourrissent de poissons. Les poissons, de plus petits poissons, et les petits poissons mangent du plancton. Il y a certaines baleines aussi qui mangent du plancton, hein, directement. Donc en fait, c'est la base de la vie au point de vue source alimentaire. Et c'est un petit peu comme les plantes sur Terre qui utilisent la photosynthèse pour se fabriquer. Donc il y a tout un tas d'algues unicellulaires qui utilisent la photosynthèse et qui sont à la base de la chaîne alimentaire du plancton, puis ensuite des plus gros planctons et puis ensuite des organismes plus gros.
Tout vient du soleil un petit peu à partir
tout vient du soleil,
de l'océan.
Exactement.
On a une étoile qui
maintenant. Maintenant.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait, voilà.
Il y a, on verra peut-être tout à l'heure qu'il y a un autre moyen de survivre sur Terre.
Maintenant, oui, parce qu'au départ, c'était pas comme ça.
Eh bien, regardons un petit peu en arrière. Je vous propose de vous projeter tous les deux dans le passé. Charles, vous êtes il y a 2,5 milliards d'années. À votre avis, si vous êtes sur l'océan de cette époque-là, de notre ancienne Terre, est-ce que vous verriez la même chose qu'aujourd'hui ?
Déjà, je crois qu'on verrait pas de plastique, parce qu'on en voit trop. Souvent, quand on est au large, en fait, on est surpris de voir des objets un petit peu spéciaux, quoi. Mais ce qui me frappe par rapport à la première question, c'est qu'il y a beaucoup de choses au large. On voit des petits insectes, on voit des petits oiseaux, on voit des tas d'animaux, Il y a une vie grouillante. Alors, plus, comme Eric le disait, plus il y a de vent et moins on voit de choses, et plus c'est calme et plus les choses apparaissent. Mais je dirais que, pour moi, la question, c'est, il y a 2,5 milliards d'années, est-ce qu'il y avait déjà des... les requins sont beaucoup plus tardifs, n'est-ce pas ?
Bah oui.
C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y avait ? C'est la question. Est-ce qu'il y avait du vent ? Oui, il y avait du vent, oui. Non ? Donc, parce que ça, c'est le principe de la mer. Non, mais c'est vrai. Quand on est en mer, on est en contact profond, direct avec la nature. Et c'est ça qui est à chaque fois bouleversant dans le fait qu'on retrouve sa véritable entité humaine, puisqu'on est lié à ce moment-là à la nature. Et le vent fait partie.
Exactement.
Le vent de cette époque-là, figurez-vous qu'il vous
serait... le vent vous a, comme on le dit dans toutes les expressions, n'est-ce pas ? On va au gré du vent. Donc là, il y avait du vent, d'accord. Très
vous
bien.
Auriez eu du vent sur votre
peau, mais
malheureusement...
Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de vent ?
Il ne vous aurait pas aidé à respirer. Car il y a 2,5 milliards d'années, oui. Sur votre bateau, vous seriez complètement privé d'oxygène. Il n'y avait
là,
pas d'oxygène
embêtant.
Dans l'air. Et du coup, Eric Arsenti, j'imagine que... Une des raisons de l'étude de ce plancton qui est à la surface des océans aujourd'hui réside dans l'idée qu'on pourrait éventuellement retracer l'histoire de la vie sur Terre en allant regarder ces petites bestioles qui habitent aujourd'hui dans l'océan. Que s'est-il passé il y a 2,5 milliards d'années ?
Voilà, ce qui s'est passé, en fait, c'est, si vous voulez, en fait, la vie, il faut repartir un petit peu à l'origine de la vie, au départ. Hein, quand la vie a commencé, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. C'était une planète sans oxygène. Donc les premiers, l'apparition de la vie, c'est dû à de la chimiosynthèse. Donc la vie a commencé avec de la chimiosynthèse. C'est complexifié, mais pas beaucoup, en fait. Jusqu'à 2 milliards d'années, à peu près, c'était surtout des bactéries et des virus.
Juste pour le dire, la chimiosynthèse, c'est que ce sont des organismes qui utilisent les roches elles-mêmes, les minéraux eux-mêmes, pour trouver de l'énergie, et non pas le soleil lui-même.
Soufre, des choses comme ça, mais pas l'oxygène. Et puis, parce que la base de la vie, c'est de l'énergie, à chaque toujours. Donc, il faut trouver une source d'énergie pour fabriquer des organismes. Et puis, il y a 2,5 milliards d'années, c'est passé un truc, c'est qu'il y a eu des mutations dans les gènes qui étaient déjà là auparavant. Et il y a certaines bactéries qui ont commencé à fabriquer de l'oxygène. Et cet oxygène s'est accumulé tout doucement, d'abord dans l'océan. Hein. Et puis, quand la concentration d'oxygène a suffisamment augmenté dans l'océan, après quelques centaines de millions d'années, elle a commencé à diffuser dans l'atmosphère. Et donc, l'atmosphère a commencé à accumuler de l'oxygène. Alors tout ça, ça...
Et comment vous savez ça ?
Ça a été mesuré par un tas de mesures, par des chimistes, des physiciens qui ont pu
mesurer. C'est des strates, c'est un peu comme en géologie.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, d'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir, parce que finalement, on entend Eric dire ça, mais...
Est-ce qu'on le croit ?
Alors,
Françoise Gaille, vous qui avez plongé au fin fond des océans, est-ce que vous voyez des traces du passé apparaître de temps en temps ?
Traces du passé Oui, d'une certaine façon, en fait, c'est le lieu de chimiosynthèse qui existe encore sur la Terre. Donc, en ce sens-là, c'est absolument intéressant de comparer plancton et organismes au fond des mers, surtout le long des dorsales océaniques, parce que le reste, ça peut être un désert, on ne voit rien, il n'y a rien, ou ils sont tout petits, on ne les voit pas. Mais enfin, le long des dorsales océaniques, là où se forme le plancher océanique, il y a justement des écosystèmes qui sont tout à fait originaux. Et vous savez que aussi, l'apparition de la vie pourrait être aussi dans ces, dans ces zones-là.
Ouais, donc l'océan et l'eau en général a un rapport direct avec la vie. Clairement, nous, on est fait à, je crois, 58% d'eau, nos corps, à nous. Certains planctons, certaines espèces qu'on trouve dans l'océan sont faits à plus de 90% d'eau. Et est-ce qu'il est possible qu'il reste encore en eux, aujourd'hui, dans certains de ces planctons, des traces des origines de la vie?
Alors, certainement, les traces de l'origine de la vie, c'est la génétique, c'est les génomes. Hein, donc, ça a commencé. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est comment ces génomes sont apparus, comment les acides nucléiques, les protéines sont apparus au départ. Mais il reste des traces, bien sûr. Et en fait, on peut retracer, grâce à la génomique, justement, on peut retracer l'histoire des cellules qu'on voit dans le plancton aujourd'hui jusqu'aux ancêtres primitifs, c'est-à-dire aux premières cellules. Donc on a une idée un petit peu de comment tout ça s'est fabriqué, mais en fait on sait encore très peu de choses là-dessus. Hein. Ça, on n'arrive pas à remonter vraiment complètement au départ. Mais on voit ce qui est intéressant, c'est que la complexification... Moi, ce que je trouve très intéressant, on parle toujours d'évolution. C'est vrai, il y a une évolution de l'univers d'ailleurs, et puis de la vie, mais... ce qui se passe, en fait, c'est surtout, aussi bien pour l'univers que pour la vie, une complexification. C'est qu'il y a de plus en plus de complexité. Donc, au moment où il y avait...
Ça, on s'en est rendu compte.
Ouais, exactement. Et donc, on peut aller plus loin. Quand on parle de complexité, on peut parler de l'homme après, mais...
Pour complexité ce qui est du... n'est pas compliqué.
N'est pas compliqué.
C'est le nombre
d'objets qui interagissent, de choses qui interagissent entre elles. Et donc, si vous voulez, dans le plancton, à partir des 2,5 milliards d'années après... L'oxygène a permis l'apparition d'organismes plus complexes. Et il y a eu des interactions entre les bactéries, des modifications, des symbioses et tout ça, qui ont conduit à l'apparition des premiers protistes. Et donc, c'était les premiers protistes, c'était la première cellule qui nous ressemble.
Finalement, oui.
Et donc, pratiquement tous les gènes, si vous voulez, la grande majorité des gènes qui ont permis notre apparition, ont été fabriqués dans l'océan, dans ces organismes-là, justement... par leurs interactions et leurs modifications. Et un des côtés très importants de l'océan pour ça, c'est les courants. Parce que les courants transportent les organismes. Donc en fait, c'est une espèce de machine à laver qui transporte de mixeurs, qui mélange les organismes. Et la diversité, c'est pour ça que la diversité s'est créée en partie à cause de ça. Mais c'est aussi pour ça que la diversité est importante. Ça génère du nouveau. Tout le temps.
Ça fait quelques années que je m'intéresse moi aussi à l'origine de la vie et à ce genre de choses. Et il y a une notion que j'ai réalisée dont je ne me rendais pas forcément compte. Nous, humains, on a pendant très longtemps eu l'impression, on l'a encore un peu aujourd'hui, qu'on est complètement séparés du reste du monde. Que nos êtres sont à part dans un monde naturel qui nous entoure et dont on pourrait se servir quelque part. Mais ce que vous dites là, c'est que et ce qu'on a réalisé en observant tout ce plancton, toutes ces bactéries, toutes ces cellules qui sont un petit peu partout, c'est que la base même du vivant est identique pour tous les organismes qui existent aujourd'hui sur Terre. Absolument tous. Il n'y a pas de... On ne peut pas trouver un petit organisme en se disant on ne sait pas d'où il vient. On voit qu'il est apparenté à d'autres, qu'on est une grande famille qui est là. Et une sorte de mémoire de comment fabriquer un être ou un organisme vivant se trouve à l'intérieur de chacune de ces cellules. Exactement. Et c'est ça que vous étiez en train d'appeler les gènes. Mmh. Je crois que dans le corps humain, nous avons environ 20 000 gènes, qui sont un assemblage d'atomes et de molécules qui donnent une indication au corps pour se fabriquer lui-même. Et si je ne me suis pas trompé, dans les océans, dans les études que vous avez faites, vous, dans les océans, vous avez trouvé non pas 20 000 gènes, mais plusieurs dizaines de millions, mmh, qui sont une sorte de soupe de gènes qui seraient là, qui évoluent, qui changent. Vous avez dit que les gènes qui sont en nous aujourd'hui proviennent des océans, que l'océan, finalement, c'est un petit peu la base de tout ce que nous sommes aujourd'hui.
Absolument, oui. Oui, on était vraiment surpris. On a trouvé 40 millions de gènes bactériens. C'est énorme, hein, 40 millions de gènes bactériens. Plus de 100 millions de gènes eucaryotes, je crois, plus des gènes viraux en grande quantité. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est pour ça, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, c'est vraiment le problème de l'évolution. C'est un problème de complexification. C'est comment, au cours de ces milliards d'années, on est parti pour faire une cellule. On sait que pour faire la cellule la plus simple, il faut à peu près 500 gènes. Donc au départ, probablement, il y avait quelques centaines de gènes qui sont apparus. On ne sait pas trop comment. Mais après, il y a ces millions de gènes qui sont apparus. Donc on commence à savoir comment ça s'est produit. C'est des propriétés des génomes qui sont apparues, qui permettent de multiplier le nombre de gènes. Mais c'est aussi les virus qui transportent des gènes d'un organisme à l'autre. C'est aussi les symbioses, c'est-à-dire que les organismes s'intègrent les uns aux autres.
C'est les interactions.
C'est les interactions. Il y a des gènes qui passent de l'un à l'autre. C'est pour ça que la diversité, c'est extrêmement important. Alors, ce qu'on voit en ce moment dans la société, c'est un désastre, parce que tous ces gens qui ne veulent pas entendre parler de diversité, c'est une stupidité, parce qu'on est ce qu'on est à cause de la diversité humaine
grâce,
aussi.
Grâce.
Et on peut dire la diversité est géniale.
Et la diversité est géniale, parce qu'elle génère.
Elle génère.
Et je vous imagine sur votre bateau Tara Océan, traverser les mers du globe avec un énorme filet derrière vous pour ramasser ces traces de vie invisibles à l'œil nu et qui pourtant sont là par milliards dans chaque litre d'eau. Une surface de l'océan que vous avez commencé à explorer, qui est pour l'instant encore plutôt méconnue, mais pas aussi méconnue que le fin fond des océans, que les abysses dans lesquels nous allons plonger dans un instant. Et pour vous y préparer, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique. C'était Ocean Eyes de Billie Eilish et nous sommes toujours en compagnie de Charles Berling, Eric Carsenti, Françoise Gaille et notre joli public pour explorer les mystères de l'océan.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors moi, je viens d'un domaine complètement différent, qui est celui de la physique théorique. Et la physique théorique, c'est quoi ? C'est essayer de trouver des lois dans l'univers, des lois qui seraient cachées. Et j'ai en particulier travaillé sur ce qu'on appelle les trous noirs et sur l'origine de l'univers. Et du coup, il y a une phrase que vous avez dite, Françoise Gaille, qui m'a particulièrement interrogé. Il me semble que vous avez dit que pour comprendre le monde, il faut avoir l'expérience charnelle du monde, avoir... pour les océans, par exemple, le goût du sel sur les lèvres, sentir la peau contre son vent. Alors, pour les trous noirs et l'origine de l'univers, j'étais un peu cuit par rapport à cette idée. Mais bon, quand bien même, j'adore cette vision un petit peu ressentie de la connaissance et du savoir. Et je pense que même lorsqu'on fait des choses très abstraites, que ce soit de la physique théorique ou de la biologie théorique, on le ressent dans nos corps, que ça fait du bien de comprendre les choses. Et ça m'aurait fait aussi très plaisir que vous nous racontiez une histoire absolument, une exploration extraordinaire que vous avez faite.
Oui, je pense de toute façon que quand on est chercheur dans les sciences de l'environnement, par exemple, ce côté charnel paraît nécessaire pour avoir une idée de l'esprit de ce qu'on veut trouver et de ce qu'on veut comprendre. Pour descendre dans les grands fonds, il faut partir sur un navire et puis ensuite il faut prendre un sous-marin, surtout au-delà d'une certaine profondeur. Les dorsales océaniques dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez à peu près 2600 mètres pour le Pacifique. Et dans ces cas-là, vous êtes sur un navire où il fait très chaud parce que vous êtes dans... une zone équatoriale où le bateau peut mettre à l'eau un sous-marin. Ce sous-marin est petit, il fait 2 mètres de diamètre du point de vue habitacle. Et quand vous descendez, déjà à la surface de l'océan, c'est très inconfortable parce que ça bouge tout le temps, on n'arrive pas à s'adapter. Mais quand même, l'idée de descendre pour la première fois dans les mystères de l'océan, ça fait une émotion très, très particulière. Ça doit être un peu comme quand on est acteur. Ou quand on commence une émission pour la première fois. Et donc, vous descendez, vous montez dans une sphère de 2 mètres de diamètre. Vous êtes 3, vous n'avez pas de place. Vous cherchez à vous calibrer avec les autres. C'est très impressionnant.
La descente est rapide.
La descente est rapide, 1h30. À un moment donné, il faut mettre au point un certain nombre de sonars, un certain nombre d'autres choses qui permettront d'expérimenter au fond, de regarder.
J'imagine qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien.
Et tout d'un coup, c'est avant de voir plus rien, vous avez une explosion de musique. Avec moi, c'était Mozart. Oui, mais c'était ça. Et donc, l'émotion...
Pourquoi vous mettez de la musique ?
C'est le... On est tellement crispé. Crispé que le pilote vous dit « Qu'est-ce que vous voulez comme musique ?»
Mais non, si. C'est merveilleux.
J'ai dit Mozart.
Et ça me va très bien pour ma première émission aussi.
Ah oui.
Ça compense tous les bruits annexes... technologique, et puis vous descendez, tout d'un coup l'obscurité arrive, dehors il y a quand même, ça scintille, un peu comme les étoiles dans le ciel, c'est ce qui est phosphorescent, le vivant justement, et puis d'un coup, silence, on approche, le silence est total, la lumière est absente, c'est le noir intégral, et tout d'un coup, les phares se mettent en musique et vous voyez le fond de l'océan, rempli de coussins de, je dirais, de basalte noir, quelquefois de l'obsidienne. Et autour de ça, entre ces différents coussins de basalte, jaillit des organismes que vous n'avez jamais vus. Des vers géants, plus grands que moi, quelquefois de 2 mètres, ou même des choses... que vous connaissez, les moules, mais qui peuvent être de 30 cm de long. Et ce paysage inconnu jusqu'à présent, dont vous avez entendu parler à travers les livres d'images publics, mais aussi scientifique, tout d'un coup vous vous dites, mais c'est extraordinaire, c'est ça la découverte. Comment des animaux de ce type peuvent exister sans lumière, c'est-à-dire sans photosynthèse, avec quelle énergie? Comment est-ce que c'est possible d'avoir justement une association d'animaux dans des conditions extrêmes où ces fluides qui sortent des cheminées d'eau thermale, du magma, du profondeur de la Terre, arrivent à avoir des températures de 400 degrés? Qu'est-ce qui se passe pour que le vivant soit capable de s'adapter à ces environnements d'enfer?
Vous avez découvert la source de leur énergie?
Oui, c'est justement ce dont parlait tout à l'heure Eric, c'est la chimiosynthèse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à la symbiose, l'association des organismes métazoaires avec des bactéries, qu'ils sont susceptibles, en les cultivant, de pouvoir avoir à partir des sulfures qui sont absolument toxiques pour le vivant, des sucres, de la matière organique, grâce à ce processus de chimiosynthèse.
On a l'impression, à la façon dont vous le décrivez, que c'est une sorte de petite cité de vivants qui serait autonome, qui existerait au fin fond des océans, à côté de volcans, de sources hydrothermales, d'endroits où des minéraux jaillissent des entrailles de la Terre. Est-ce qu'on a ça tout au long, partout au fond des océans, ou est-ce que ce sont vraiment des endroits extrêmement isolés? Est-ce qu'on a cartographié même le fin fond des océans en entier?
Non, on a 5% de la surface du fond des océans qui a été cartographiée, donc non, on n'a pas tout cartographié. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le long des dorsales océaniques, là où se forme le plancher océanique, le magma remonte, se solidifie à la surface de l'eau qui est froide, et ça forme des plaques, et ça forme presque un tapis roulant comme ça, et ensuite ces plaques s'écartent, par exemple dans l'océan Pacifique, c'est 12 cm par an, d'écartement des plaques dans certaines zones, et puis ça retourne dans le centre de la Terre, le long des continents, et ça forme comme ça une sorte de, ce que je disais, de tapis roulant, qui fait que, par exemple, le Pacifique, ça grandit. Il pousse d'un côté l'Amérique, et de l'autre côté, il pousse aussi l'Asie. L'océan Atlantique est beaucoup plus vieux, donc lui, c'est 1 à 2 cm par an, donc c'est beaucoup moins important.
Donc l'Amérique ne s'éloigne pas si vite de nous que ça.
Elle va se rapprocher si ça continue comme ça.
C'est ça.
Mais Françoise, quand vous racontez ça, on a l'impression, on ne peut pas faire un rapprochement avec ce qu'on imagine de l'espace? Parce qu'on n'y a pas été dans l'espace, en tout cas pas très loin, mais... C'est comme si, moi ce qui m'avait frappé quand j'entendais des scientifiques comme vous, c'est qu'il y a beaucoup plus d'obscurité sur la Terre que de clarté. C'est-à-dire, nous, on n'a pas l'habitude.
De zones inexplorées.
Non, on a la nuit, ok, bon, il fait noir, mais on comprend que sur Terre, la masse obscure est beaucoup plus énorme. Et donc, ça fait penser à l'espace aussi, où il n'y a pas, disons, de lumière. C'est-à-dire... Quand vous décrivez ces paysages, on a l'impression d'être dans l'espace. Et on se souvient de tous les films qui ont utilisé, qui racontent l'espace. Et bien, quand on voit maintenant les photos de ces animaux très très sous-marins, enfin, ils ont des gueules des films qu'on nous a balancés sur les extraterrestres.
Les aliens en particulier.
C'est-à-dire, c'est comme si on avait
méchants
sur Terre des extraterrestres.
Oui. L'alien, en fait, la forme des aliens était dérivée d'un plancton qui s'appelle les phronymes.
Voilà.
Qui utilisent les salpes des organismes gélatineux, qui font des tonneaux avec et qui les mangent et qui se mettent dedans.
Ils n'ont rien inventé. Il suffirait d'être minuscule et il y a des aliens absolument partout. Mais c'est vrai ce que vous dites, Charles Berling, dans le sens où... à la limite, dans l'espace, il y a plus de lumière encore qu'au fond des océans. Car la lumière du soleil, par exemple, s'estompe petit à petit avec la profondeur. C'est pour ça que les océans sont bleus. La plupart des couleurs disparaissent petit à petit, mais le bleu arrive suffisamment loin avant de rebondir et de repartir vers la surface.
Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai lu qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire que nous, on dit que c'est bleu, mais pour beaucoup d'espèces, c'est pas bleu. En fait, les couleurs, c'est totalement subjectif, quoi. C'est-à-dire que on pense que, comme vous parliez de cette photo là magnifique où il s'est retourné, il a filmé, il a photographié la Terre, c'était bleu. Mais pour qui c'est bleu? Ben, seulement pour nous.
Alors il y a une petite subjectivité, mais il y a aussi une objectivité dans les couleurs. Ah. C'est-à-dire qu'une couleur, ça va dépendre de la forme de l'onde lumineuse qui va voyager. Et ce qui différencie une couleur d'une autre, c'est la distance entre deux crêtes de vagues d'une onde. Mmh. Donc on pourrait l'appeler différemment, mais distance, elle est figée.
D'accord.
Et ce qu'on appelle bleu, c'est une distance très particulière que nos yeux peuvent voir éventuellement différemment, mais qui en soi est différente. Si on plonge dans les océans, même ce bleu, aussi objectif ou subjectif qu'il soit, disparaît. Et on arrive dans un endroit où, effectivement, comme vous le disiez, Charles Berling, il n'y a plus de photosynthèse possible. J'imagine que ces petits îlots de vie qui sont au fond des océans ne sont pas éternels, que de temps en temps, soit leur source se tarit, les volcans s'éteignent, ou bien ils s'éloignent peut-être d'une source de chaleur ou de minéraux, et ils disparaissent. Mais comment est-ce qu'ils font pour réapparaître plus tard ?
Oui, alors ça, c'est une grande question que nous sommes posée, puisque la vitesse à laquelle ces écosystèmes disparaissent est fonction de l'éruption du magma au fond des mers. Et donc, il y a des moments où tout est englouti. On parle du ver de Pompéi, par exemple, qui vit le long des cheminées, mais qui reçoit un nombre de particules pas possible. Et donc, tous ces écosystèmes disparaissent, on les voit vitrifiés dans, justement, l'obsidienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on s'est posé la question, et ce qu'on pense, c'est ce qu'il y a aussi de formidable avec le vivant, c'est qu'il crée un nombre de choses incroyables, et il a trouvé le fait qu'il y a des adultes, au fond, mais tout ce qui est larve, tout ce qui est forme de développement, va se disperser dans toutes les profondeurs et jusqu'à la surface de l'océan. Et ça, cette capacité d'envahir tout l'espace de l'océan, fait qu'à un moment donné, il peut revenir pour réapparaître quelque part, en fonction justement du fluide hydrothermal qui sera généré par le magma terrestre.
Il attend son heure.
Exactement.
Charles Berling, vous demandiez tout à l'heure pendant la musique, mais le rapport avec l'origine de la vie, parce que tout à l'heure on parlait du plancton qui était en surface des océans, qui en gros aujourd'hui se nourrit principalement de lumière de soleil, enfin, en tout cas c'est dans le soleil que ce plancton trouve son énergie. Qui fabrique de l'oxygène, qui fabrique de la matière que d'autres planctons et toute la chaîne alimentaire peut utiliser derrière. Mais il y a 2,5 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de phytoplancton. Le vivant devait trouver une autre source. C'était probablement la chimiosynthèse, comme vous venez d'en parler. Est-ce que l'étude de ces sources hydrothermales et des organismes qui sont autour, je sais pas, nous éclaire un petit peu peut-être sur nos origines, ou est-ce qu'on est déjà sur des organismes bien trop gros?
Ce qui est sûr, je fais juste une parenthèse, ce qui est sûr, c'est qu'on parlait tout à l'heure de navigation, et quand on est dans l'océan, et quand on croise ces animaux absolument incroyables, qui va du dauphin au globicéphale, le cachalot, le cétacé, c'est qu'on est pris par une émotion absolument fondamentale. Une émotion fondamentale, c'est ça qu'on ressent. Il y a quelque chose qui vous étreint le cœur, et vous ne savez pas d'où ça vient, mais je pense que ça vient de tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire ça vient du fait que ce sont nos cousins très proches, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque chose comme l'origine de nous-mêmes. Mmh. Et là, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais en Méditerranée, on en a vu tellement avec ma femme que tout d'un coup, on s'est mis à pleurer. On pleure, mais vraiment à pleurer, parce qu'il y a quelque chose qui s'empare de nous, qui nous dépasse totalement.
Et qui nous rappelle que c'est un peu notre famille aussi.
Et la question que je voulais poser à Eric ou à Françoise, c'est quand, parce qu'on parlait de 2,5 milliards d'années, mais quand les premiers animaux, disons, sont apparus?
Alors ça, tu veux répondre?
500 millions?
Vas-y. Entre 1 milliard et 500 millions d'années.
Ah, ça fait beaucoup.
Ouais. Mais ça, c'est des animaux. Vous avez posé la question sur les animaux, oui, hein, Charles Berling.
Pardon.
C'est pas des animaux, enfin, c'est des protistes.
Oui, c'est
des cellules comme les nôtres.
Oui, c'est donc pas loin des animaux.
C'est le début.
C'est une cellule qui a un noyau à l'intérieur d'elle-même. Contrairement aux bactéries, qui elles sont d'une certaine manière plus simples et qui n'ont pas de noyau à l'intérieur d'elles-mêmes, et qui ont probablement d'une certaine manière peuplé notre planète pendant les premiers...
Et qui peuplent notre corps aussi.
Ah oui, bien sûr.
Et surtout, ce qui est très intéressant... Enfin, je vous coupe. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui est apparu, ce qui a été fondamental, c'est effectivement l'apparition d'un noyau. C'est-à-dire que le génome est isolé de ce qu'on appelle le cytoplasme, ce qui est le jus de la cellule. Hein, donc il y a un noyau, mais surtout il y a des molécules qui sont apparues qui ont permis aux cellules de bouger. savez, on a des muscles. Mm-hmm. Hein, les muscles, ils sont fabriqués de certaines protéines, dont de certains gènes. Et ces gènes, ils sont apparus très tôt, justement, dans ces organismes-là, en ayant d'autres fonctions que des muscles, évidemment, puisqu'il y avait qu'une... Enfin, ils avaient des fonctions musculaires aussi, mais ce n'était pas pour faire bouger un bras, mais c'était pour que la cellule puisse bouger. Et la motilité, la capacité à bouger, c'est quelque chose de très important dans l'univers pour des organismes plus complexes. Oui.
Mais c'est ce qu'on dit d'ailleurs, le mouvement, c'est la vie.
Le mouvement,
et
c'est
on le sent. Ouais. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure, si on parle d'art dramatique ou de marin, et ben, les deux sont constamment sur des éléments en mouvement.
Ouais.
Et on passe notre temps à être en mouvement. Et si on s'arrête...
C'est dynamique, tout est dynamique.
Et du coup, pour peut-être donner une sorte de début de réponse à votre question sur l'origine, peut-être pas des animaux, mais du vivant lui-même... Oui. Vous me corrigerez peut-être, mais il me semble que l'estimation actuelle est que la vie sur Terre est apparue dans l'eau, à un certain endroit, il y a environ 4 milliards d'années, peut-être un peu plus, c'est-à-dire vraiment, quasiment juste après la naissance de notre monde lui-même. Ce qui pourrait nous faire dire, penser en tout cas, que la vie est plus facile à créer que ce qu'on pourrait penser. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Françoise Gaye ?
Ah ben oui, la vie est difficile dans toute sa complexité. Mais je pense qu'elle est peut-être apparue en plusieurs endroits. On pense qu'il y a eu à la surface de l'océan cette apparition, et puis dans les grands fonds. C'est-à-dire que vraiment le long de ces dorsales océaniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je crois qu'aujourd'hui, on se pose la question de... finalement, est-ce qu'elle n'est pas encore en train de en sommeil dans un certain nombre d'endroits ? Puisqu'on parle aussi de tout ce qui est la vie subsurface. C'est-à-dire qu'en fait, sous ce plancher océanique, il y aurait tout un univers de micro-organismes qui seraient d'un certain type, qu'on appelle les archées, par exemple, et qui seraient susceptibles d'être avec des propriétés dont on n'a pas encore idée.
Très primitive.
Très primitive.
Il y a bien... encore beaucoup plus de mystères dans nos océans que ce qu'on pourrait imaginer. On va faire une deuxième petite pause musicale pendant laquelle nous prendrons une question du public que nous vous poserons juste après. Hey. Get down inside the tingle. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here. Right here, right now.
Just like water, you limit in one, just like time, yeah, you limit in one, oop,
alors nous avons une petite question pour nos invités de la part de Lucie.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
La question de Lucie.
Oui, merci. S'il y a une réserve de 40 millions de gènes, est-ce qu'il y a encore des créations en cours? Et la deuxième question découle de la première. Est-ce que l'évolution ne peut se concevoir complètement qu'avec les disparitions et les évolutions, les apparitions?
Je commence.
Vas-y.
Oui, bien sûr. En fait, il y a plus de 40 millions. Hein. Il y a 40 millions de gènes bactériens qui sont en fait probablement les moins intéressants. Et puis, plus de 100 millions de gènes de caryotes, enfin de cellules comme les nôtres. Hein. Donc, il y a énormément de... Oui, la réponse, c'est est-ce qu'il y a toujours création de gènes? Oui, absolument. Il y a des articles récents qui sont sortis, d'ailleurs, qui montrent comment ça marche. Il y a des mécanismes moléculaires qui permettent de fabriquer des gènes, mais en très grande quantité, dans certaines espèces, mais je pense que ça se produit un peu dans toutes les espèces. Hein. Donc, il y a toujours de la création de gènes. Et est-ce que l'évolution... ne peut se concevoir qu'avec création et disparition. En fait, c'est ce qui se passe de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a en permanence des espèces qui disparaissent et d'autres qui probablement apparaissent. Souvent, on ne le voit pas, nous, à notre échelle, parce que... D'abord, les grosses espèces, c'est différent du plancton, hein, des petites espèces. Il y a probablement plus de dynamique chez les petits organismes, de genre plancton et tout ça, les unicellulaires, que chez les plus gros organismes. Mais il y a en permanence, effectivement, création de diversité et disparition.
J'imagine que c'est le cas au fond des océans aussi.
Oui, c'est tout à fait. C'est un mécanisme biologique.
Qui a lieu absolument partout à la surface de la Terre.
Tout à fait.
Bon, j'ai maintenant un petit test pour vous. C'est pas vraiment un test, c'est un son que je vais vous faire écouter et que je trouve assez étonnant. Et on va voir si vous arrivez à reconnaître que ça, c'est pas un test, c'est plutôt quelque chose de rigolo. Nous allons écouter ce petit... Est-ce que ça vous parle?
Moi, je dirais que c'est des dauphins ou des
orques.
Mammifères marins, en tout cas.
Des cétacés.
Des cétacés, oui. Des mammifères marins. Sure. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Pourtant, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cet enregistrement, quelque chose qui n'avait pas été entendu auparavant. Je vous le ferai écouter une petite fois et après, on aura la personne qui a pris ce son, qui nous expliquera de quoi il s'agit.
Ça fait penser à des éléphants.
Il y a un plouf. Hein.
Ouais.
Ça.
Il y a un truc régulier là. Tic, 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 tic. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est.
C'est peut-être quelque chose de mécanique. Ouais. Je n'ai pas la réponse à ça. On demande à celui qui l'a pris. Bonjour Hervé Glotin, vous êtes professeur à l'université de Toulon.
Ah, Toulon encore.
Au centre d'intelligence artificielle en acoustique naturelle. Et c'est vous qui avez enregistré le son qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous pouvez nous le décrypter?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, on a eu la grande chance de faire plusieurs missions en Arctique. Et dans ce fjord de Kavangen, qui est arctique, au nord de Tromsø, en Norvège, nous avons posé une station d'écoute à 4 hydrophones pendant plusieurs mois. Et voilà le résultat stupéfiant qu'on a ramené. C'est la première scène acoustique au monde où on a 4 super prédateurs qui vocalisent en même temps. C'est-à-dire que vous avez entendu au début de la piste des orques.
Est-ce que vous voulez qu'on on le fasse écouter à tout le monde et que vous nous le décryptez en même temps?
En direct. Oui. Les orques.
Jamais gagné.
Vous allez entendre une bosse. Voilà, ça c'est la bosse. Les orques à nouveau. Et le clic du sonar de chasse du cachalot régulier que vous avez pris pour un moteur. Et si vous avez encore 5 secondes d'attention, on va arriver sur un pulse de Rorqual. Écoutez bien, attention, c'est là. Et encore un autre, là.
C'est
alors, les pulses de Rorqual sont très bas en fréquence, c'est un peu plus délicat à entendre. Donc vous les avez peut-être pas entendus.
Si.
On a de très très bonnes oreilles.
Merci Hervé.
C'est-à-dire que c'est des pulses très longs, hein, ils durent à peu près une seconde et ils sont vibrants. Enfin, on est pris, hein, quand on est dans l'eau et qu'on les entend, ils nous glacent un petit peu, ils font résonner un peu les tissus. Et voilà, donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que sur cette zone, du fait de la concentration des harengs, qui est la plus grande masse halieutique, hein, sur l'Europe pratiquement, qui est la deuxième ressource économique de la Norvège, cette pêche aux harengs, eh bien vous avez maintenant une concentration de ces superprédateurs. Vous avez le deuxième animal le plus grand de la planète, qui est le rorqual, hein, qui est très bas en fréquence, que vous avez un petit peu entendu. Vous avez aussi les baleines à bosse, qui sont des centaines maintenant dans ce fjord, qui pêchent ces harengs. Vous avez les orques qui sont résidents et qui sont quelques 2-3 000 individus. Et vous avez maintenant les cachalots qui sont arrivés à cette année-là. Quand on a posé la bouée, on ne savait pas qu'ils allaient venir, mais ils sont arrivés. Et où ils sont revenus, on va dire, hein, parce qu'ils étaient dans ces fjords avant les chasses baleinières. Et ils ont été décimés, mais ils repeuplent des zones où ils peuvent se nourrir. Et donc, c'est formidable de constater que dans un volume de 1 km sur 1 km, on va dire, vous avez plusieurs dizaines d'individus de ces super prédateurs qui font tous entre 20 mètres et 10 mètres de long, d'accord ? Plusieurs tonnes, chaque individu. Et ils évoluent. Alors, ils doivent s'éviter. Ils doivent s'entendre les uns les autres et probablement se gêner ou faire exprès de se gêner dans ce qu'ils entendent et ce qu'ils peuvent percevoir. Donc il y a des jeux de rivalité acoustique, je pense, et on étudie cette évolution acoustique de ces super prédateurs qui sont très plastiques, hein, qui sont très habiles dans leur production et leur communication acoustique.
Est-ce que vous en avez entendu déjà des super prédateurs, Eric Arsenti, Françoise Gaille, Charles Berling?
Moi, les dauphins, j'ai entendu, oui. Il y a d'autres bruits que ça, d'ailleurs, qui font aussi, qu'on peut entendre. En bateau, on les entend. Même.
Vous voulez nous les imiter?
On les entend. Ah non, c'est un peu... Non, c'est très difficile à faire, en fait. Je n'arriverai pas à le faire.
C'est des sifflements, c'est...
Non, c'est très, très... Le sonar, là, c'est très régulier.
Et non, voilà. Il y a toute une gamme, en fait. C'est-à-dire que même le rorqual, on suppose maintenant que le rorqual construit des sons pour percevoir par écho son milieu. Et peut-être les boules de harengs. Les boules de harengs font 20 mètres de haut, 20 mètres de diamètre. Hein, donc probablement que ces pulses-là, ou au moins la baleine à bosse, sont capables de renvoyer de l'information sur la présence des harengs.
Mm-hmm. Moi j'ai entendu ça grâce à Hervé Glotin. Justement, et grâce à ces micros, et je me souviens que la première fois qu'on avait parlé avec Hervé, il y avait le Covid, et les animaux se mettaient à parler beaucoup, beaucoup. Et ils disaient, c'est dingue, ils se mettent à parler énormément, parce qu'il y a moins de bruit.
Et en plus, ils ont été dans des conditions où ils se sont entendus peut-être au double ou au triple des distances normales, puisqu'il y avait beaucoup moins... au proche de nos côtes, de bruit, de pêcheurs qui étaient absents, etc. Donc les animaux ont pu se socialiser beaucoup plus pendant le Covid, sur les bords de côte, un peu moins différemment au large, puisque les choses ont peu changé au large.
C'est pour ça qu'il y a eu plein de naissances.
Voilà. Malheureusement, c'est déjà la fin du premier épisode de Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Charles Berling, pour vos voyages. Merci à vous, Françoise Gaille, Eric Carsenti et Hervé Glotin, pour votre travail et pour nous avoir permis d'explorer un petit peu de ces océans inconnus avec vous. Merci aussi à Benjamin Riquet à la réalisation, à Laurent Baudouin à la technique et à Élodie Royer à la programmation. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission en direct et en public. Nous partirons ensemble dans l'espace à la recherche des extraterrestres avec un ou une invitée mystère et deux scientifiques. La billetterie est d'ailleurs ouverte et vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique.